Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Clément, producteur de fromage de chèvre à la ferme de Bougnols, agriculteur par amour et philosophe par la force des choses. Donc bonjour Clément, alors est-ce que tu pourrais te présenter vite fait ton nom, le nom de ton exploitation et qu'est-ce que tu produis ?
D'accord, donc je m'appelle Marc-Yves Clément, donc je suis agriculteur en Sud Aveyron depuis 2007, je me suis installé sur la ferme de Bougnols, sur la commune de Sainte-Afrique. Et la production principale, c'est des chèvres en transformation fromagère et en vente directe.
En vente directe, tu les vends où principalement ?
Je les vends principalement sur le marché, et on va dire 90% de la production est vendue directement par nous-mêmes sur le marché. Et on vend 10%, 15% de la production selon les années. Là, avec le confinement, on a fait un peu plus. Sur les biocoop ou sur des magasins de producteurs, mettons dans un secteur entre Sainte-Afrique et Millau au maximum.
Et alors, comment es-tu venu à faire du fromage de chèvre ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait ? Ou alors, est-ce que c'est venu comme ça ? Je ne sais pas.
Alors, pour parler dans les normes classiques, je suis hors cadre familial. Donc, je suis. C'était pas du tout. Ma famille n'est pas du tout dans le milieu agricole. J'ai rencontré une fille, une femme, ouais. Qui se trouvait être fille d'agriculteur. Ouais. Et en fait, on s'est mis ensemble et très vite, j'ai découvert un nouveau métier parce que je ne suis pas du tout du milieu agricole.
D'accord. Et tu faisais quoi avant ?
Avant, j'étais menuisier.
Menuisier. Ouais, est-ce que ça t'a branché tout de suite ? Est-ce que tu t'es formé là-dedans particulièrement ou est-ce que tu as appris sur le temps ?
C'est-à-dire que j'ai fait, on va dire, 6 mois comme ça, juste aider ma femme à qu'elle m'apprenne un petit peu aussi à dégrossir le jardin. Comme c'était une découverte, c'était vraiment c'était incroyable pour moi. Je tombais amoureux de quelqu'un et en même temps, elle me faisait partager complètement et une vraie confiance son travail et sa façon de vivre, ce qui était vraiment tout à fait nouveau pour moi. Et ça m'a accroché tout de suite, effectivement. Ça m'a pris. Et pour parler de formation, donc ensuite, en 2008, j'ai fait une formation d'un an au BPREA au vin, à la Cazotte.
La fameuse Cazotte. Donc ça fait 13 ans que tu es dans le milieu. Avant, tu étais un urbain, tu étais plutôt campagnard ?
J'étais vraiment complètement dans la ville, j'habitais en immeuble tout le temps et on va dire que je faisais de la menuiserie mais pour un boulot alimentaire on va dire. Ça me donnait de l'argent facilement, et ça me posait pas trop poser de questions et je crois que je m'en suis un peu trop posé des questions moi-même. Donc en fait j'en ai eu marre au bout d'un moment tout simplement, j'avais pas d'attache plus que ça dans mon lieu de vie. Donc je suis parti avec un camion et j'ai commencé à vadrouiller, à faire de la menuiserie itinérante en France. Et par le plus grand des hasards, j'ai été amené à faire un escalier pour une amie à moi à Sainte-Afrique. Je cherchais un espace pour fabriquer cet escalier parce que dans le camion, c'était pas possible. Et du coup, on m'a présenté à mon beau-père, mon futur beau-père, que je connaissais pas encore comme mon beau-père. Et il m'a, en échange donc, du lieu de travail où je pouvais travailler, je donnais quelques heures de travail pour l'agricole. Et puis, j'ai réussi quand même à finir cet escalier. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que ça... C'est un milieu assez fermé, en tout cas, à mon point de vue, je vivais vraiment dans la ville. Mon seul contact, on va dire, avec l'agriculture, c'était peut-être quand j'allais au marché quand j'étais petit. Et donc, d'un seul coup, là, c'était une vraie découverte parce que c'était un monde que j'avais jamais vu. Que ça soit la nature, je connaissais un peu, mais pas dans la réalité de la campagne, pas dans la réalité agricole. Et le milieu agricole en lui-même, c'est quelque chose que je m'étais même jamais posé la question, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui existait, je savais que ça existait. Mais après, la réalité des choses, toutes les instances, tous les organismes qui gravitent autour, et même le mode de vie, tout simplement. Ouais. Je ne connaissais pas et ça m'a beaucoup plu.
D'accord, ça t'a séduit assez rapidement, quoi.
Ouais. Ça m'a séduit, je pense, en fait, aussi maintenant, avec le recul, en me rendant compte des différentes exploitations que je peux voir, c'est que c'était aussi un lieu assez particulier, un lieu assez ouvert, avec et en même temps une très forte exigence de faire les choses, une très forte exigence de faire les choses par soi-même. Ouais. Et ça a été aussi une grande découverte pour moi, ma propre capacité, ouais, ou la capacité qu'ont les gens à faire les choses.
Et donc, oui, je voulais te demander le rapport avec les bêtes, parce que c'est particulier, surtout si tu étais un urbain, au mieux tu avais un chien ou un chat, ou un poisson rouge, mais la chèvre...
On va dire, il y avait déjà des chèvres, donc j'ai pas eu à choisir. Maintenant, si je devais choisir, je prendrais des chèvres, évidemment, parce que c'est un animal qui... Je sais pas comment expliquer ça. Je crois dans l'inconscient collectif, de toute façon, pour la plupart des gens, j'ai rarement vu des gens qui avaient un préjugé sur les chèvres. C'est un animal qui véhicule par lui-même plein d'images plutôt agréables, contrairement aux moutons, qui peut avoir une autre forme d'image. Je dis pas que j'aime pas les moutons, mais c'est vrai que la chèvre a un côté plus indépendant, plus autonome, plus individuel, qui me plaît. Et qui, moi, j'ai vraiment trouvé cette réalité-là. C'est un animal qui m'a accroché tout de suite. Et je suis devenu très franchement très dépendant à mes animaux, vraiment. D'accord. Pas uniquement dans le souci de la production.
Et bon an, mal an, tu as combien de têtes de bétail ?
Alors, c'est une toute petite exploitation, c'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans le milieu agricole, ça va sembler beaucoup. Je dois avoir en tout 42 animaux, je vais en avoir 36 à la traite. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un tout petit jardin de 10 mètres carrés, 40 chèvres, c'est un troupeau. Pour n'importe quel agriculteur convenable, pour la MSA ou toutes les instances, je reste un peu un bricoleur. D'accord. Donc là-dessus, après, chacun jugera selon ses capacités.
Voilà, selon son point de vue. Et donc, ton exploitation sur Bougnols, ça représente à peu près combien d'hectares ?
Alors, quand je suis arrivé, on avait à peu près 20 hectares. Pas tous travaillables, on va dire c'est 20 hectares, c'est là pour parler des termes qui ne te parleront pas forcément, la surface agricole utile, c'est-à-dire la surface vraiment complètement utilisée, doit être à peu près vers 17-18 hectares. Il y a quand même pas mal de bois et de parcours. Et depuis, on a acheté, je crois, il y a 4 ans, on a acheté 10 hectares en plus, on a eu l'opportunité, on a fait un petit crédit pour acheter 10 hectares en plus, parce que, c'est-à-dire que c'est une activité, les chèvres, c'est une des activités qu'on fait, mais je fais aussi polyculture. Donc, c'est-à-dire que je fais mes foins, je fais mes céréales, et donc ça prend beaucoup de temps et ça demande quand même de l'espace et des terres. Après, on fait aussi du maraîchage, du pain, on fait des poules, on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Ça reste un mode de vie plus paysan, je pense, dans l'image qu'on peut avoir du côté paysan, c'est-à-dire faire son bois, faire son pain, faire son fromage, ce genre de choses. Ça.
Vous êtes quasiment autonome, alors au niveau des ressources alimentaires, et pour vous, et pour les bestioles ?
Au niveau des animaux, oui, on est arrivé quasiment, selon les années, selon mes rotations de culture, je peux me retrouver des fois en manque ou un petit peu de foin, ou un petit peu de céréales, mais l'idée globalement, c'est que si je gérais bien ça, si c'est bien fait, normalement, j'ai aucun manque pour les animaux. Pour ce qui est au niveau humain, comparé à beaucoup de gens, je pense sûrement, plein de gens vont me dire « Oh là là, c'est l'autonomie ». Non, non, on dépense par an énormément en épicerie, que ce soit pour du riz, pour du sucre, pour de la semoule, pour énormément de produits qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes ou qu'on n'a pas le temps ou pas le loisir. Et j'ai une famille nombreuse aussi, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de petits plaisirs qu'on ne peut pas produire du chocolat, on n'a pas encore réussi.
Alors, une chèvre, qu'est-ce que ça mange pour qu'elle produise du lait ? Alors donc tu parlais des céréales et tout ça, mais sur les hectares, qu'est-ce qu'elle mange elle-même ?
La chèvre, c'est un animal assez souple, mais c'est-à-dire après ça dépend quel type de production. Moi je cherche une production laitière, donc l'idée c'est quand même, il y a une forme de, je suis en bio, mais il y a quand même une forme de rentabilité. Donc c'est-à-dire que selon les périodes, en hiver ça va être du foin, parce qu'elles ne vont pas sortir, donc pas un foin forcément très riche, un foin qui va surtout faire de l'encombrement pour l'animal, qui va lui remplir la panse et faire la bonne quantité pour faire la gestation. Après le reste de l'année, ça va être beaucoup du foin plus riche, avec beaucoup de sorties. Mes animaux sont beaucoup en extérieur, c'est-à-dire qu'à partir d'avril, ils passent 6 heures par jour dehors, minimum, que ce soit dans des parcs fermés ou dans des balades. À partir de juillet, je les balade à peu près entre 3 et 6 heures par jour jusqu'à septembre-octobre. Ça me permet en même temps que je donne toujours du foin, mais ça me permet de valoriser des espaces que je ne pourrais pas faire en tracteur, que ce soit des parcours, que ce soit des sous-bois ou des champs sur lesquels je n'ai pas envie de repasser en deuxième coupe. Et ça permet aussi d'avoir des apports différents pour l'animal, pas les nourrir uniquement d'une certaine manière. Et au niveau alimentation, je donne des céréales, mais très très peu. D'accord. Je suis à 200 grammes de céréales par tête par jour, considérant qu'un animal il peut manger jusqu'à 800 grammes, 1 kilo, voire 2 kilos des fois de céréales. Moi, mon intérêt, c'est que mon animal rumine et mange du foin et de l'herbe et le moins possible de céréales.
Et est-ce que pour toi, est-ce que tu notes un changement de goût du fromage produit ou de la fermentation du fromage, je ne sais pas, par rapport à ce qu'elle mange ? Est-ce que j'imagine que le fromage d'hiver n'est pas le même que celui d'été au niveau du goût ? Et selon ce qu'elles mangent, est-ce que ça change vraiment le goût?
Je pense que si tu leur donnes des choses très, très, si tu leur, tu leur fais manger que des choux, oui, il y aura peut-être un goût pas très agréable dans le lait, ça c'est évident. Après, j'ai pas le palais assez élevé pour te dire elles ont mangé tel type d'herbe à tel moment. Par contre, ce qui se reconnaît très simplement, c'est tout simplement les périodes où elles sont au foin sec. Le rendement fromager déjà est pas le même. Il y a moins d'eau dans le lait, il y a moins de petit lait en fait tout simplement, il y a plus de gras. Et à des périodes où elles vont dehors, les fromages effectivement ont plus de petits laits et n'ont pas forcément la même tenue et le même rapport. Mais le goût joue vraiment beaucoup plus à l'affinage et des conditions climatiques. Ça, c'est vraiment ce qui joue. Et après, des gens pourront dire « je reconnais tel goût, telle odeur », mais nous, elles sont quand même très souvent dehors et le foin que je donne est quand même du foin de prairie la plupart du temps, donc avec une flore très très variée.
Et c'est vous-même qui affinez le fromage ?
Oui, au niveau transformation, je ne sais pas moi qui m'occupe de cet atelier-là en particulier, mais on fabrique le fromage, on l'affine en cave naturelle, avec tout type d'affinage. On peut vendre des fromages sur le marché qui ont un jour, tout frais, démoulé, ou comme des fromages qui peuvent avoir 6 mois, voire des fois 1 an. Si les gens ne me les achètent pas la première année, on a la tête dure, on leur ramène la deuxième année, ils finiront bien par les acheter de toute façon. Les gens ont des goûts très très larges, et de moins en moins de fromages secs sont vendus, j'ai l'impression. Il y a vraiment une clientèle là-dessus. Et moi, ce qui surprend beaucoup les gens, c'est qu'on le vend au même prix que les fromages frais, effectivement, parce que pour moi, le temps qu'on a passé à les garder, je ne vais pas essayer de le valoriser pour un client ou augmenter le prix. C'est pas le blas, c'est mon problème à moi si j'arrive pas à vendre mes fromages la première année. Ce n'est pas celui des clients, mais c'est agréable d'offrir différents goûts pour les clients parce que je me rends compte que il n'y a pas un type de fromage. Moi, je sais que j'aime quelques types de fromages sur ce que je produis. Il y en a certains, c'est pas que je les aime pas, mais je les... Chacun ses préférences. Et sur le marché, c'est vraiment ça. Comme on fait goûter les fromages aux gens, on se rend compte vraiment que quelqu'un va détester un fromage qui aura par exemple 4 semaines, mais par contre se régaler d'un fromage qui aura 6 jours. Et ça, et puis après, inversement.
Tu voudrais nous présenter un peu plus le mode de fonctionnement de votre ferme, de votre exploitation, au niveau familial ?
C'est-à-dire que c'est une famille donc, que j'ai intégrée. Il se trouve que maintenant, on travaille encore. Ma belle-mère est à la retraite, elle a 72 ans, mais elle continue à nous aider pour tous les travaux, parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'activité. Ouais. Ma femme travaille surtout à la fromagerie, et au jardin, et s'occuper des enfants, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, on a agrandi un petit peu la famille qui était déjà existante. Et son plus grand-fils, avec sa petite amie, travaille aussi, plus ou moins avec nous, selon la période pas déclarée, mais nous donne des coups de main, nous aide, et vive à la ferme de la même manière avec nous. D'accord. Et c'est vrai que, là encore, toutes les choses que je pourrais dire, je représente une partie de Bougnol, mais je ne représente pas la ferme dans son ensemble. Chacun a son point de vue.
Oui. Voilà, tu n'es pas le caporal meister de la ferme de Bougnol. Donc du coup, vous en vivez correctement de votre exploitation ?
Je crois que chaque situation est particulière selon les fermes. Moi, je sais que quand des stagiaires viennent ou que des jeunes viennent, je leur dis « ce que vous voyez ici, ce n'est pas forcément applicable partout, chaque lieu est différent. » Mon beau-père avait une philosophie de vie qui m'a énormément marqué, et pour lui, la terre était à celui qui la travaille. Et effectivement, donc il a tout fait pour qu'on puisse, avec les facilités maximum, Muriel et moi, ma femme et moi, qu'on puisse avoir ce lieu-là de la manière la plus simple possible et la moins lourde financièrement possible. Ça fait qu'on s'est installé avec aucune contrainte d'achat trop importante, avec aucun crédit trop important sur le dos, ce qui nous permet de, pas nous amuser, mais en tout cas d'avoir une marge de manœuvre qui est beaucoup plus souple, je pense, que beaucoup de fermes qu'il faut reprendre. On est considéré par tous comme des travailleurs pauvres, on nous fait toucher la CMU, on nous propose des aides, des trucs, comme si on était des gens qui n'ont rien. Et moi, je sais que j'ai refusé à la MSA il y a quelques années qui me fasse un dossier de RSA ou de choses comme ça, parce que je ne comprends pas. On vit très bien, on mange très bien, on a plein de projets, mes enfants sont habillés, ils peuvent partir en vacances. Quand on veut un loisir, on le fait, quand on veut faire des travaux, on les fait, après à notre manière, à notre sauce, effectivement, et on n'a pas, nos loisirs sont pas des loisirs extrêmement dispendieux, on va dire, mais là c'est un choix, c'est pas un fait, je ne me verrais pas construire une piscine devant la maison ou partir en week-end à Ibiza ou à Palma de Mallorca, c'est pas du tout mon objectif dans la vie, mais après ce n'est pas un jugement par rapport à ce que font les autres. moi-même, je trouve un plaisir là-dedans, à être dans l'activité sur ma ferme, et surtout me sentir autonome, pas dans l'idée d'autonomie forcément alimentaire, mais en tout cas une forme d'autonomie mentale. Que le salariat, ça reste un très bon moyen de vivre, de gagner sa vie, de faire toute une carrière, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai découvert dans l'agricole une possibilité d'être son propre patron d'une manière complètement libre, de pouvoir choisir. Je veux faire des chèvres, on a choisi de faire des chèvres. On pourrait changer, faire autre chose, faire plus de légumes si on veut vendre plus de légumes sur le marché. Gérer les choses autrement. D'un seul coup, on a, plutôt qu'être le maillon d'une chaîne, j'ai l'impression d'être presque une chaîne à moi tout seul. En tout cas, moi et ma famille. Et ça, c'est un gain qui est incroyable mentalement. La liberté, c'est une laisse plus ou moins longue. Ouais. Voilà, il y en a qui acceptent pas, il y en a qui voudront briser tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que ma laisse, je me la suis tressée moi-même. Ouais. C'est la seule différence. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a amené une laisse avec un collier qui me dit « tu te mets là ». Longue, moins longue là, moi, j'en ai une. Je ne dis pas qu'elle est plus longue que les autres. Hein. Je ne peux pas forcément avoir beaucoup plus de loisirs. Ou plus. Mais je l'ai choisi. Ça, ça ne m'est pas tombé dessus. J'ai pas eu faut reprendre la ferme des parents, faut faire ça, non. C'était vraiment un choix concerté à deux, et puis maintenant, je serai apte à faire n'importe quoi d'autre, mais je n'ai vraiment pas l'envie. Pour l'instant, tant que j'ai l'énergie, je veux rester à faire ce que je fais.
Donc, Clément, je voulais te poser des questions un peu plus pointues, peut-être. Dans quel état est pour toi l'agriculture aujourd'hui ? Et quel chemin elle prend, qu'est-ce qu'elle va être, à ton avis, dans 20 ans, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle soit, surtout ?
Le problème, c'est que je suis un peu un utopiste. Donc, et en plus, je connais l'agricole sur les 3 km² qui entourent mon exploitation. Donc, c'est très difficile pour moi de pouvoir faire des hypothèses sur comment pourrait l'agriculture. Moi, à mon échelle, ce que je remarque, on fait de l'accueil en ouf, c'est-à-dire des échanges de services, des gens viennent chez nous, on échange du gîte et du couvert, ils peuvent travailler. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes français ou étrangers, qui viennent et qui sont vraiment en recherche de, pas forcément devenir agriculteur, mais en tout cas, pas forcément dans l'idée agriculteur installé, mais en tout cas, retrouver la campagne, faire les choses par soi-même. Et je pense qu'il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque. Et peut-être le confinement aura été un point d'orgue là-dessus. Beaucoup de gens se rendent compte que pas de jardin, c'est très dur. Un tout petit jardin, t'as envie de plus et que t'as envie de t'ouvrir l'horizon un petit peu. Le gros souci, c'est que les fermes, depuis les années 60-70, l'agriculture a cassé toutes les petites fermes dans l'idée de faire des fermes plus productives, plus grandes, plus réalistes, plus sensées, ce qui n'était pas forcément une très mauvaise intention dès le départ, mais qui a généré des fermes énormes qui sont même difficiles pour les propres enfants des agriculteurs à reprendre parce qu'ils n'ont pas de fonds pour racheter les parts des parents. Se retrouver avec des fermes-usines qui gèrent 200, 300, 400 hectares, des milliers de bestioles qui sont gérées par 3 personnes. Le gigantisme peut aller dans tous les sens. Pour moi, le bio n'est pas forcément garant d'une idée de petit. Ouais. Tu peux faire très grand. Après, il suffit de respecter l'espacement des animaux. Tu peux répondre au cahier des charges en faisant des choses vraiment gigantesques. En fait, le gros souci, c'est que l'agriculture n'est plus viable pour les gens qui l'exploitent à petite échelle, ou en tout cas très difficilement. Donc on a fait des gros systèmes. Mais même ces gros systèmes, j'ai l'impression que c'est quand même... Je pourrais pas parler pour les agriculteurs, parce que je connais pas, on parle pas souvent des revenus entre agriculteurs, je pense, en tout cas avec les grosses fermes. Mais ils ont moyen d'investir, ils ont moyen de faire, mais le problème, c'est que quand tu fais 1000 brebis et 200 hectares, et que tu fais vivre... 1, 2, 3 familles, plus ce qui en découle, c'est-à-dire que ce soit des cumas ou des vendeurs de tracteurs ou des choses, mais je trouve que c'est dommage. Est-ce que ces choses-là pourraient pas être divisibles, plus simplement, et faire vivre plusieurs petites familles ? Comment l'agriculture peut évoluer ? J'aimerais être utopiste et te dire que les gens vont se réapproprier la terre et que petit à petit, on va se rendre compte que les gros systèmes, ça marche pas forcément. Comme on a vu avec le gros confinement, les grosses entreprises, que ce soit dans les transports, dans la production, ont quand même des problèmes. Et on reparle beaucoup des petites structures, des structures locales. Alors j'espère que ça se mettra en place, mais j'ai un côté un peu cynique à me dire que Non, passer le choc de ce confinement ou de, même de n'importe quel choc de quoi que ce soit, d'un seul coup, on retombe très vite dans nos travers et que tout le monde a envie de payer le moins cher possible sa nourriture. Ouais. Tout le monde a envie d'avoir le plus vite possible les choses et qu'on est encore dans une civilisation de loisirs. Ouais. Je n'ai rien contre le loisir. Mais d'un autre côté, en ayant vaguement l'envie d'arriver à une forme d'autonomie, bah, je me rends compte que ça demande une exigence de temps qui est énorme, qui n'est pas de chaque instant, mais qui est quand même extrêmement demandeuse, et je ne suis pas sûr que les gens seraient capables d'arriver à accepter tout à fait ça. Ne pas voir mes chèvres plus d'une journée, ça peut me travailler un petit peu. Je ne dis pas que les gens feront moins bien que moi, parce que je fais souvent des bêtises ou des conneries, ça c'est sûr. Mais au moins, je suis là. Et ne pas être là, ça peut me gêner. Donc, mais là, c'est le rapport chacun personnel, comment il voit son travail. Pareil, le jardin, j'ai du mal à partir et laisser dire, tiens, tu vas l'arroser. Oui, c'est difficile, parce que tu te sens... Je me sens responsable. Comme, je sais pas, tu as des enfants, j'ai des enfants aussi. Laisser mes enfants chez quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais j'ai quand même un regard et ça manque, effectivement. Le mot est exact. C'est vrai qu'il y a une forme d'attachement. On peut s'attacher. Quelqu'un y verrait un outil de travail, un outil de production. Moi, je vois des animaux, des mammifères dans lesquels je me sens très proche, que je fais naître, que j'élève, que je vais garder le plus longtemps possible avec moi, que je vais essayer de leur offrir, parce que bon, là, on parle maintenant beaucoup de bien-être animal, que j'essaye de leur offrir ce que j'imagine être le mieux, dans un souci éthique, mais aussi un souci par rapport à soi, parce que bon, j'ai pas fait de sondage, je ne leur ai pas demandé si elles étaient contentes de leur vie. J'essaye, moi en tout cas, de leur offrir le plus que je peux, et du coup cette responsabilité, comme un père de famille peut l'avoir avec ses enfants, de vouloir absolument leur offrir le mieux, même des fois au détriment de soi-même. C'est un peu cette image-là que j'ai pour beaucoup de choses maintenant que je fais.
J'y pense là, qu'est-ce que tu répondrais, parce que l'argument souvent de l'agriculture productiviste, c'est de dire que, un, ils nourrissent le monde, et que, deux, il n'y a plus de famine. En Europe, oui, en Amérique du Nord, peut-être. Après, il y a d'autres endroits où il y a encore des famines. Et puis, ils ne nourrissent pas tout le monde.
Là encore, ça, c'est des choses auxquelles je ne suis pas sûr d'être le plus apte à en parler. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que, effectivement, sortir de la Seconde Guerre mondiale, suite à différents conflits, il y a eu besoin. Ça correspondait bien. On avait d'un seul coup, la France était exsangue, il n'y avait plus de bras pour l'animer. Le pays était ravagé, et d'un seul coup, la chimie, les Américains venaient nous aider avec des grosses machines, avec des gros trucs qu'on ne connaissait pas encore, de la bonne chimie qui permettait de faire pousser des choses très très rapidement, beaucoup mieux, de manière plus simple. Je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, à plus grande échelle. Et elle a été utile, effectivement, à un moment. Enfin, utile. Après, le souci, c'est qu'on en a fait un système global, mondialisé, qui d'un seul coup ne prenait pas en compte le besoin, tout simplement, enfin, les réalités de la Terre, tout simplement. Et qu'à vouloir aller trop, trop, trop vite, je crois qu'on est en train d'abîmer tout simplement la Terre, et que ça ne sera pas un système pérenne pour moi, tout simplement. L'agriculture productiviste ne pourra pas nourrir à long terme de cette manière-là. Il y aura forcément, on arrive toujours, même avec les produits, il y a des limites d'un seul coup, on se rend compte qu'on veut pousser trop loin. L'homme a voulu industrialiser la nature, en faire un moyen de production. L'animal devenait une unité laitière qui produisait tant de lait. Tu mettais tant de foin, de produits à l'entrée de l'animal, à la sortie au niveau lait, t'avais tant de rendement. Ça devenait une machine à faire du lait. Et la terre, on l'a assimilée de la même manière. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense... selon moi, mon image, que ce productivisme ne peut pas durer, donc il faudrait mieux essayer petit à petit de changer. Dans les pays où, en tout cas, on peut se le permettre. En France, on peut largement se le permettre de commencer à voir autrement. Et je pense, dans les autres pays, plutôt que de partir tout de suite dans une grosse industrialisation, remettre, déjà accepter que les gens aient d'autres solutions. Notre passé colonialiste nous a laissé des choses en tête qui nous fait que c'est nous, l'hémisphère nord, qui avons les solutions pour sauver la planète entière. Mais je pense qu'il y a réellement d'autres manières de faire qu'on a complètement zappé, qu'on a complètement oublié, et qu'avant de commencer à tout pourrir là-bas et à leur faire produire des maïs irrigués ou des choses comme ça, il faudrait commencer à essayer de réfléchir concrètement avec les personnes comment arriver à faire que ce soit viable pour chaque pays. Je pense que c'est important d'enregistrer là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi le clivage entre bio et pas bio. C'est pas quelque chose, moi je sais que depuis quelques années, quand je peux rencontrer des agriculteurs ou que je rencontre d'autres personnes du milieu agricole, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant forcément, d'être dans l'agriculture bio. Ouais. Parce que je me rends compte que ça amène un clivage, une coupure avec les gens, tout simplement. Ouais. Le fait de dire que je fais de l'agriculture bio amène avec lui une forme de jugement. Je ne suis pas dans le jugement des autres. De la même manière, j'ai une alimentation végétarienne. Quand je le dis, ce n'est pas pour juger les gens qui mangent de la viande. Chacun doit répondre de ses actes avec sa propre conscience. C'est le premier juge. Ça, là-dessus, chacun doit se rendre compte pourquoi. Si tu as réfléchi pourquoi, comment tu le fais, et que tu trouves que ça te va de vivre de cette manière-là, c'est très bien. Mais donc, c'est vrai que le bio... Pour moi, sur le stand du marché, ce n'est pas, on n'a pas des affiches bio, on n'a pas des t-shirts bio, des casquettes bio, où je harangue pas les gens en hurlant qu'on fait de l'agriculture biologique. C'est marqué. Ouais. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est quand même une forme de militantisme de faire du bio, mais plus global. C'est un parti pris. Pour moi, le plus important dans ce que je vends, ce n'est pas forcément qu'il soit bio. C'est marqué, donc les gens le voient. Mais ce qui est important, c'est que ce soit local. Et que ça soit, effectivement, que ça soit surtout que le produit plaise aux gens. Ah bon, ouais, voilà, le goût, pour moi, est très important. On fait goûter les gens, et après, ils trouveront des intérêts en se rendant compte que nos fromages, effectivement, sont faits à la présure végétale et pas à la présure animale, que c'est local parce qu'on est sur la commune du lieu où on vend, et qu'effectivement, et qu'en plus, on fait de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne met pas de produits ni dans les animaux, ni sur les sols, et qu'on prête attention à ça. Donc chacun pourra y trouver, je pense, un intérêt particulier. Mais moi, la première chose qui compte sur mon produit, c'est effectivement le goût. Voilà. Et ça, dans mes achats aussi, je ne vais pas me forcer à manger quelque chose uniquement parce que c'est bio. Ouais. C'est, y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Ouais.
Tu penses qu'il existe ce clivage agriculture conventionnelle et agriculture biologique, ou pas tant? Est-ce qu'entre agriculteurs qui n'ont pas les mêmes méthodes de production, est-ce qu'on se fréquente? Est-ce qu'on discute librement?
On peut arriver. Moi, je discute avec mes voisins, ils sont tous en conventionnel. Après, bon, ils me prennent un peu, je pense, pour un...
hurluberlu.
Oui, un hurluberlu, pour parler gentiment, peut-être. Il y a peut-être d'autres mots en patois qui pourraient plus me définir. Mais c'est vrai que voilà, je les fais un peu rigoler, je pense. Mais en même temps, ils rigolaient, je pense, de la même manière de mon beau-père. Et cette ferme existe depuis donc 1980. Concrètement, elle existe. Et on est toujours là, et on fait notre travail, et on en vit. Donc là-dessus, je pense que c'est une des premières preuves pour dire qu'on n'est pas si... on n'est pas trop à la ramasse quand même non plus. Mais c'est vrai que ce clivage, je me rends compte par certaines personnes que j'ai pu rencontrer, qu'effectivement, si je dis à un agriculteur que je ne connais pas, je fais de l'agriculture biologique, bah, la personne peut se sentir jugée et être du coup en rejet par rapport à ce que je peux lui dire, ou imaginer que la moindre chose qu'il me dira... Il y a une mode depuis, on va dire, 10-15 ans, j'ai l'impression, de valoriser extrêmement l'agriculture bio. Ouais. Et quelque part, je ne sais pas si ça existe, on parle beaucoup d'agribashing, je ne sais pas réellement ce que ça veut dire, hein, j'ai entendu parler. Donc, soi-disant, beaucoup d'agriculteurs se sentent attaqués, lésés, mal vus par la population française en général. Et c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un du coup que tu fais l'agriculture bio, un agriculteur, bah, il va avoir tendance à se sentir jugé. Et je pense que ça fait naître un clivage qui n'est pas positif. Pour moi, je cherche toujours, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je cherche toujours au moins le plus petit point commun qu'on puisse avoir ensemble pour essayer après de partir. C'est trop facile de trouver les différences. C'est tellement facile, et la division, il n'y a aucun intérêt. Je pense que même quelqu'un qui vote Front National, maintenant ça s'appelle autrement, je crois, RN, et qui peut être chasseur ou j'en sais rien, ou qui roule en gros 4x4, mais je pense qu'en cherchant, si je vois tout de suite la personne, je freine des 4 verres, je me dis c'est un gros con, j'ai pas envie de le voir, mais je pense qu'il faut rechercher un peu, et chercher derrière toutes ces images-là, et trouver d'autres raisons qui fait qu'on peut se serrer la main et se dire voilà, on n'arrivera pas à s'entendre sur tout, mais on arrivera à se retrouver sur quelques points et essayer de les cultiver au moins ces points-là. Pour une forme que pour moi l'unité est importante.
Nous retrouverons Clément pour la deuxième partie de cette entrevue la semaine prochaine. Parole Rurale est un programme de Radio Sainte-Afrique, diffusé le mardi à 8h15, le jeudi à 18h et le dimanche à 14h. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même antenne.